Frères et sœurs, comme souvent dans les récits évangéliques, les enseignements de Jésus sont introduits par une question, somme toute banale, dans laquelle nous pouvons tous nous reconnaître. Quoi de plus simple, en effet, que de demander un avis sur des affaires familiales? Les rabbins, à l'époque de Jésus, étaient souvent invités à conseiller, voire même à trancher dans ce genre de litige. Et il faut saisir toute la violence contenue dans la réponse de Jésus pour comprendre qu'une question anodine révèle souvent une existence mal orientée, c'est-à-dire au sens propre pécheresse. Je rappelle que le mot péché veut dire rater la cible. La parabole qui suit vient compléter la mise en perspective des deux enseignements de Jésus, à savoir la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche, et celui qui amasse des richesses pour lui-même n'est pas riche en Dieu. Notre texte de l'Évangile est très négatif à propos d'un mauvais usage des richesses qui se trouvent investies d'un pouvoir qu'elles n'ont pas, celui d'assurer la sécurité face à la mort. Il s'agit finalement d'un avertissement de bon sens dont l'essentiel se trouve dans les derniers mots de Jésus, « Devenir riche pour Dieu ». Comment devenir riche pour Dieu ? À mon sens, Paul, dans son épître aux Colossiens, vient nous éclairer à ce sujet. Si vous êtes ressuscité avec Christ, dit-il, recherchez les choses d'en haut. Et pour nous faire comprendre ce qu'il entend par en haut, l'apôtre ajoute où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans le ciel. Et pour que la feuille de route soit tout à fait complète, il en donne même le but. Quand Christ apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui compte par-dessus tout dans nos vies, nous préparer à vivre notre avenir avec Christ. Ce qui signifie ne pas se focaliser sur ce qui compte ici-bas, comme par exemple accumuler des richesses. Et nous retrouvons dans cette parole de l'apôtre, rechercher les choses d'en haut, finalement, nous y retrouvons une trace des deux commandements résumant toute la loi, aimer Dieu par-dessus tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Accumuler des richesses. Dans l'évangile de ce dimanche, des frères se disputent un héritage et ils font appel à l'arbitrage de Jésus. Et ils se font sèchement renvoyer. Ici n'est pas la vie, leur dit Jésus, et lui, il est venu pour la vie. Les biens, abondants ou pas, ne garantissent pas la vie. C'est ce qu'illustre la parabole qui suit. Pourtant, le riche insensé n'est pas si insensé que cela, en tout cas, pas aux yeux du monde et dans une rationalité purement économique. Au contraire, le texte le laisse apparaître, il est travailleur, et en même temps il est prudent, avisé. Il ne dilapide pas les richesses providentiellement gagnées. Et de plus, j'oserais ajouter qu'il est prévoyant et sage. Prévoyant, car il compte bien utiliser les biens dont il dispose maintenant, en anticipant sur les problèmes du futur. Il y a une histoire un peu similaire dans l'Ancien Testament, c'est celle de Joseph en Égypte, devenu numéro 2 derrière le Pharaon, et qui lui aussi reçoit la mission d'accumuler des biens en prévision des temps incertains. Et il est aussi sage, pourrait-on dire en tout cas, car il ne se laisse pas happer par la spirale infernale de l'avidité, qui veut toujours plus et ne sait jamais se satisfaire de ce qui est. Alors pourquoi est-il qualifié d'insensé par Jésus ? Bien parce que tout d'abord, il a accumulé plus que ce qu'il ne peut raisonnablement consommer. Après tout, on ne peut enfiler qu'un seul costume à la fois, on ne peut conduire qu'une voiture à la fois aussi. Mais aussi parce qu'il place dans ses biens une plus grande confiance qu'en son Créateur, de sorte que ses richesses prennent la place de Dieu dans sa vie. Et enfin, parce que cet homme n'a pas prévu qu'il pouvait mourir dès la nuit suivante et que ses biens ne lui serviront alors plus à rien. Il pense trouver la paix intérieure, le plaisir et le repos grâce à ses richesses, à condition de bien les entreposer. Et c'est là que le calcul s'avère faux. Bien-être et aisance matérielle ne sont pas des buts en soi, mais des moyens. Un paroissien qui avait beaucoup vécu aimait à répéter « Le chrétien doit avoir la tête au ciel et les pieds sur terre. » Et avoir les pieds sur terre, c'est aussi rester conscient que nous n'avons pas la maîtrise de tout et certainement pas de la longueur de nos jours. Salomon, lui, en était bien conscient lorsqu'il dit « Il y a quelqu'un qui a travaillé avec sagesse, connaissance et succès, et voilà que sa part est donnée à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. » Et il commente, c'est encore là une fumée, dit la version, une futilité, dit une autre version, et un grand mal. Tout est donc dans le rester raisonnable. Il ne s'agit pas à proprement parler donc de la condamnation de la richesse, mais de la démesure dans la recherche, l'accumulation et l'usage du gain, et surtout de la fausse assurance et de l'aveuglement qu'elle peut provoquer si nous n'y prenons pas garde. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tel est le conseil que nous donne l'apôtre dans l'épître de ce jour. Il y a deux choses dans ce « attachez-vous » et une autre qui ne s'y trouve absolument pas. Paul ne dit pas « retirez-vous du monde ». Il ordonnerait l'inverse de ce qu'il a toujours fait. Toute sa vie, il a mis son énergie au service de l'Évangile et de la mission. Et pour faire de la mission, que je sache, il faut aimer les gens et mouiller sa chemise là où ils sont. Jésus disait déjà que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Il n'y a donc pas de mépris ni de diabolisation du monde chez le pasteur Paul. Alors quel est son conseil? Si le Christ règne maintenant et prend soin de nous, recherchons sa présence chaque fois qu'il nous l'offre, dans sa parole et dans les sacrements. Lui-même explique que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est Jésus qui parlait. Et pour le repas du Seigneur que nous allons partager dans quelques instants, il déclare de la même façon: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui, Paul ne veut pas que nous soyons des chrétiens tièdes, remplis de doutes et pas très sûrs de leur affaire. Il souhaite au contraire nous voir convaincus que Jésus est au ciel et règne pour nous. Il veut qu'en Jésus nous soyons sûrs de tout recevoir, le pardon, le secours, la consolation, la persévérance, la victoire et leur salut. Si Christ est vraiment notre trésor, alors là aussi sera notre cœur, notre joie de vivre, de lutter et d'espérer. À l'opposé, Paul nous met en garde contre ce qui nous détourne du Christ. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car c'est vrai, il y a beaucoup de belles choses sur la terre. Il y a de grandes joies à vivre, la nature, mais aussi la famille, l'art, la littérature pour ceux qui aiment, le sport, un travail valorisant, les distractions, et je pourrais allonger cette liste. Il y a aussi l'argent et son pouvoir, les titres et les honneurs. Dieu nous accorde ces choses, mais prenons garde qu'elles ne deviennent pas encombrantes au point de détrôner le Christ. Pierre écrit là-dessus sans ménagement dans sa première lettre. Je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Frères et sœurs, nous sommes tous attirés par ce qui brille, au point d'oublier parfois notre vrai trésor. Et il y a même des jours où l'on se surprend à penser que prier, passer du temps avec Dieu et toutes ces choses, ce n'est finalement pas si important. Bien des fois, nous ne sommes pas du tout pressés de rechercher les choses d'en haut, parce que les choses d'ici-bas nous accaparent et nous remplissent tout entier. Comprenez-vous pourquoi l'apôtre nous conseille de regarder bien vers le ciel ? Parce que nous sommes sans cesse tiraillés par ce qui est terrestre en nous. Mais le Christ nous a aimés d'un amour si grand qu'il ne cessera jamais d'être le moteur de nos méditations et de nos initiatives. C'est auprès de lui que se trouve notre vraie raison de vivre. Être riche en Dieu, ou selon les versions, être riche pour Dieu. Dans son discours, Jésus dit des choses étranges sur la liberté par rapport au bien. Veillez à vous garder de toute avidité, ou bien la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et encore, homme déraisonnable à propos du raisonnement du riche et de ses calculs sur son avenir. Et enfin, cette opposition entre amasser des trésors pour soi-même, signe que l'on n'est pas riche pour Dieu. Ces affirmations du Christ contestent nos calculs, nos soucis, et même souvent nos rêves, car nos rêves en disent long sur nos priorités. Une autre parole de Jésus résume bien ce qui nous occupe ce matin. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Ce Mammon, ce sont les sécurités, les pouvoirs recherchés pour se protéger du monde et des autres. Servir Mammon, c'est s'inquiéter de se procurer ses pouvoirs jusqu'à les diviniser. Servir Mammon signifie craindre le monde et m'inquiéter avant tout pour m'en protéger et de garantir mon lendemain. Au contraire, servir Dieu signifie investir ma vie dans le monde puisque ma vie est garantie par le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ ressuscité. Servir Mammon est s'inquiéter d'amasser à cause de la peur. Servir Dieu, c'est se réjouir de partager, de faire rayonner l'Évangile parce que nous sommes libérés de tout le reste. En cela, nous entendons combien nous sommes à la fois justes et pécheurs, libres et inquiets, païens et fidèles. Nous en remettre entièrement à la parole de Dieu, c'est au-dessus de nos forces. Ne pas nous inquiéter, nous ne le pouvons pas, si ce n'est en recevant la parole et en nous fiant à elle. Écoute-moi, nous dit Jésus, et tu entendras que le monde ne peut rien, ni pour toi, ni contre toi, et tu auras la force de le vivre. Voilà donc les deux options incompatibles, l'inquiétude ou la liberté, amasser ou partager, se préserver ou s'investir, Mammon ou Jésus-Christ. Être riche pour Dieu ou en Dieu, c'est finalement juste le contraire que d'être riche dans le monde. Cette richesse-là, celle d'en haut, n'a rien à voir avec des biens matériels ou tout ce qui apporte une fausse sécurité, mais elle est de nature divine et elle est la suite de notre transformation opérée par l'Esprit Saint en nous. Le royaume de Dieu et sa justice. Ils sont un don à désirer et à rechercher, comme Jésus le souligne auprès de ses disciples quelques instants plus tard. Dans la prolongation de cet entretien, au verset 31, il dit « Recherchez d'abord son règne, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Dieu nous a donné la vie, et il prendra soin de nous, car nous avons autant de valeur que la prunelle de ses yeux. Le règne de Dieu est d'abord un état intérieur et qui se déverse aussi à l'extérieur de nous au travers notamment de notre amour du prochain. Cet homme riche n'a pas respecté cet état. Ce n'était pas le but premier de sa vie et il n'a pas manifesté de reconnaissance à Dieu pour les dons qu'il avait reçus. L'idée de les partager avec des moins bien lotis que lui ne lui est pas non plus venue à l'esprit. Et c'est pour cela qu'il a été qualifié de déraisonnable. Frères et sœurs, puissions-nous apprendre à nous confier en notre Seigneur, à nous fier à sa parole. Elle nous invite à tourner nos regards vers lui et à tout attendre de lui. Il sera là et ne nous abandonnera pas, soyons-en certains. Amen. Thank you.